J'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Hanvet. Salut Frédéric.
Salut Ingen.
Alors Frédéric, on se connaît depuis des années et je me suis rendu compte que je le vois tellement régulièrement sur des, et on travaille ensemble sur des petits formats que j'ai le plaisir là de t'avoir pour un grand format. Mmh. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir ton parcours, comprendre comment tu t'es lancé et puis évidemment on embrayera sur ton expertise qui est le marketing en ligne. Donc bah, Frédéric, raconte-nous un peu comment tu t'es lancé, vraiment dis-nous tout.
Alors en fait, pour la petite histoire, mes parents en fait, enfin ma mère est commerçante, mon père est commercial, maintenant ils sont à la retraite. Et en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à bosser entre guillemets dans l'entrepreneuriat, le commerce de famille. Je pense que mon premier boulot, ça devait être à 12 ans, quand j'étais en train d'étiqueter des boîtes de conserve et les mettre dans la petite supérette de ma mère, qui était ouverte tous les étés. Et donc un petit peu, je suis rentré dans le monde du commerce, de la vente très très jeune, puisque les vacances pour moi c'était plutôt l'école, puisqu'en fait chaque été tu passais on va dire 2 mois à bosser, et donc pour moi c'était la période fin d'été et début septembre où j'avais vraiment des vacances 100%, et puis bien sûr les vacances scolaires.
Est-ce qu'il te payait?
Oui, alors j'étais déclaré.
Ah bon?
Oui, déclaré.
À 12 ans?
Pas 12 ans, à 16 ans.
Ah ok,
à 12 ans, tu fais plutôt, tu t'aides un peu les parents et tout ça. Après oui, je faisais de la logistique, j'allais en caisse et tout ça.
Mais même à 12 ans, on te donnait un peu d'argent déjà?
Non,
ou pas?
Non, pas à 12 ans, non, tu étais trop jeune pour ça en fait. Ouais. Et donc voilà, c'était le début de l'histoire. Donc l'intérêt en fait, c'est que ça t'oblige en fait à avoir le sens du client, savoir ce que veut le client, avoir de l'écoute et savoir un petit peu parler avec le client, faire de la conversation avec les gens, s'intéresser à eux.
Génial.
Et c'est là en fait que tu te rends compte que s'il y a une chose qui intéresse les gens, c'est de parler d'eux. Et c'est essentiel. Si vous voulez réussir à vendre, intéressez-vous aux personnes. Vous voyez, moi actuellement, j'ai une équipe de commerciaux qui travaille avec moi. Et c'est des commerciaux grand compte B2B. Et ils font une erreur qui est tout le temps systématique. C'est-à-dire qu'on va chez le client. Puis bon, on va vous faire la présentation. Alors voilà notre société, voilà nos produits. On fait ci, on fait ça. Stop. Déjà, on s'arrête là. Généralement, sur une première réunion, moi, quand je commence sur des formats courts. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer sur un format... une heure de presse, je vais déjà en fait déjà faire un petit ça vous donne un petit astuce, une séquence d'autorépondeurs des prospects que j'ai récupéré. Alors bien sûr, c'est du prospect froid. Si tu as du prospect chaud et des gens qui t'invitent à venir chez toi, tu vas faire une qualification avant. Mais si tu as des formulaires qui viennent sur ton site internet et que tu as des demandes comme moi, j'en ai tous les jours, j'ai une petite dizaine de leads pour ma boîte là, pas perso mais ma boîte pro, qui arrive, et bien en fait j'ai des séquences d'autorépondeurs qui arrivent et j'ai un super message, celui qui marche le mieux et qui cartonne le mieux, je mets dans l'objet, c'est rendez-vous pour le pilotage de l'expérience client, et dans le message je dis bonjour prénom, j'ai des disponibilités cette semaine, est-ce qu'on peut se voir pour un rendez-vous de 30 minutes? Donc en fait la personne pense que c'est un vrai rendez-vous avec lui et se dit merde putain j'ai oublié le rendez-vous. Donc ça c'est un truc qui marche très bien, et donc la personne m'appelle derrière, et juste derrière elle dit ok d'accord je veux bien, j'ai un petit peu de temps de cette semaine, etc. Donc première chose, un rendez-vous sans risque, 30 minutes. Ensuite, quand la personne me répond, j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui sont pas intéressés, qui sont pas chauds. Je leur dis, ok d'accord, pour préparer la réunion, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quels sont vos objectifs, vos besoins, comme ça me permettra de faire une présentation qui s'adapte exactement à ce que vous voulez. Tac. Et là en fait tu filtres, tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc., etc. Lors de la présentation, quand tu vas voir en fait les gens, tu vas commencer par la découverte, il faut écouter le client. Et en fait, il ne faut pas démarrer, mais voilà la société, ceci, cela. Et moi, je vais toujours dans l'ordre du jour, ce qu'on va faire, on va passer 5 minutes où je vais vous présenter l'entreprise et ce qu'on fait, et ensuite, on va passer 15 minutes à vous écouter, et ensuite, derrière, tout simplement, je vais vous parler de ce que je peux faire pour vous. Et ce qui est bien, c'est que quand la personne t'aura en fait présenté ses problèmes, tu vas adapter ton discours derrière.
Bien sûr.
Et il n'y a pas longtemps, toi, j'étais avec Geodis, qui est une grosse boîte qui travaille, qui est une filiale de la Poste.
C'est
une filiale de la Poste.
Okay.
Donc en fait, c'est tous les gens qui te livrent les colis, Maison du Monde, Amazon et compagnie. Justement, c'est ce qui s'est passé. On avait 3 heures de réunion, 2 heures, 3 heures de réunion. Et donc en fait, moi je suis passé un petit peu derrière et justement, j'étais en train de refaire mes slides pendant que la personne était en train de parler.
Carrément.
Et puis après, tu refais tes slides, tu dis, mais voilà, c'est exactement ça mais regardez génial. Comme vous. Et en fait, ça permet de rebondir. Okay. Tu dis, comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on voulait. Et le mec, il dit, mais c'est exactement ça qu'il me fallait.
Bah ouais. Et c'est ce que tu disais, les gens, ils ont envie de se sentir concernés, valorisés, avoir de l'attention sur eux, quoi. Alors juste, on revient un peu en arrière. Vous l'avez compris, Frédéric est un passionné, expert, auteur du livre Le Growth Hacking chez Duno. Et revenons un peu en arrière. Alors, on raconte-moi un 12 ans. Peu tes études. Alors, à 16, à partir de 16 ans, quelle étude t'as fait
en fait,
qu'est-ce qui t'a amené là où t'es aujourd'hui? Parce que, voilà, qu'est-ce qui t'a amené là où t'es aujourd'hui?
En fait, c'est très simple. Comme bah, j'ai travaillé dans le commerce pendant longtemps, mais sincèrement, ça m'a saoulé parce qu'en fait, le commerce, c'est 7 jours sur 7. Et c'est vrai que je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, tu vois, tu sortais en boîte de nuit jusqu'à 4-5 heures du matin et puis le lendemain, à 8 heures, il fallait te lever.
J'ai jamais fait ça.
Pas très frais. Allez, bon, allez, c'est parti pour la journée de boulot. Une fois ou deux, ça m'est même arrivé d'être malade et aller vomir dans les cartons.
Oh, non.
Et après revenir avec un petit coup d'eau. Non, ça va très bien. Enfin bref. Donc c'est ça, c'est la jeunesse. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Puis après, sincèrement, je savais pas quoi faire quand j'étais petit. J'ai eu la chance en fait que mon père m'offre justement vers mes 12 ans un ordinateur, un Thomson TO9. Et ça, avec l'informatique, ça m'a toujours passionné avec mon frère. On se battait pour faire de l'ordinateur tout le temps. Et en fait, voilà, je savais pas quoi faire. J'ai fait des études les plus générales possibles. Donc, disons, bac B, machin. Voilà, j'étais pas un scientifique, je suis plutôt un littéraire, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir des bons profs en primaire, et donc je suis mauvais en orthographe. Et pourtant, j'anime un des premiers blogs en France, et je fais 10 000 visiteurs par jour, et j'ai
créé conseilmarketing.com.
Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que même si vous avez des problèmes, c'est pas un souci, puisqu'en fait, on peut toujours compenser, s'améliorer, etc.
Ok, alors et comment ça t'a amené jusque-là?
Donc voilà, 18 ans, je sais pas quoi faire, j'ai le bac, machin, et puis je commence à faire des trucs un peu généralistes. Ce qui m'a, donc j'ai fait un DUT GEA, parce que c'est un petit peu encore assez classique, gestion des entreprises d'administration avec un peu de compta, un peu de vente. Puis après, donc j'ai fait ça, et puis je savais pas quoi faire. Et puis là, c'est assez marrant, t'as un de mes potes, parce que moi je voulais faire un truc encore dans la vente, parce que la vente et le commerce, parce que c'est un peu ce que je connaissais par cœur, et qui me dit oh, attends, je candidate à Poitiers, allez, fais le dossier avec moi, on verra. Et puis donc, bon, allez, je dis oh, allez, ok, si tu veux, je vais remplir le dossier, parce que l'autre truc c'était pour aller à La Rochelle, dans la grande district. Puis là, je dis bon, ok, si tu veux, puis bon, hop. Je suis reçu, merde, ah bah tiens, et donc on va ensemble passer les examens. Je suis reçu, lui il est pas reçu, donc je fais un an de, enfin 2 ans de maîtrise de gestion. Et puis après, la maîtrise de gestion c'est sympa, on a fait la grosse teuf, t'es encore un généraliste. Et là j'ai fait l'armée, et en fait à l'armée, tu te retrouves à glandouiller le soir, tu te lèves à 5h, 6h de maths, mais après le soir, à partir de 17h, 18h, tu fais plus rien.
Attends, donc, c'était ton service militaire obligatoire?
Ouais, parce qu'en fait, après la maîtrise, j'ai essayé de faire un DSS marketing, mais sincèrement, je n'ai pas été très bon, et un master en marketing hein, pour maintenant. Et j'étais pas très bon, donc en fait, j'ai préparé ça un peu par-dessus la jambe, et voilà.
Les profs n'étaient pas bons. Si t'étais pas bon, c'est qu'à mon avis, les profs n'étaient pas bons.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout préparé les dossiers, les rapports. Mmh. J'étais persuadé que j'aurais été pris derrière, et tout ça, je me dis, bon, je vais pas me faire chier, attends, je vais réussir à prendre, être pris, etc. Et en fait, non. Donc, je me suis retrouvé un petit peu comme ça, le bec dans l'eau à la rentrée, en n'ayant rien à faire, sachant que j'avais le service, donc j'ai fait le service militaire. Et là, j'ai commencé à réfléchir. C'est un peu le moment du bilan de compétences. Et en fait, moi, ce que je conseille toujours à quelqu'un, faire un bilan de compétences, bah, quand tu fais tes études, à un moment clé de ta vie, et tu dis, mais qu'est-ce que je veux faire, etc. Et c'est là que je me suis dit, merde Fred, toi, ce qui t'intéresse, en fait, c'est plutôt le marketing, c'est plutôt la création de produits, c'est plutôt les jeux vidéo, les logiciels. Et par contre, tout ce qui est compta et tout ça, moi, ça me saoulait un peu. Donc, je me dis, ok Fred, ta bonne résolution, qu'est-ce que c'est? Tu vas bosser dans le domaine des jeux vidéo. Et donc, en fait, après ça, eh ben, en fait, j'ai fait tout mon maximum. J'ai travaillé sur le dossier, j'ai candidaté à plein de trucs et tout ça. Et finalement, donc, j'ai été pris en Death Market et puis j'ai travaillé dans les jeux vidéo, etc. Et après les jeux vidéo, où j'ai fait quasiment presque un an, j'ai bossé en fait, dans une start-up qui, faisait, en fait, qui vendait des logiciels et des jeux vidéo sur Internet. Et là, en fait, ça m'a appris en fait, le rythme de travail et surtout le. En fait, alors c'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, une année de start-up, ça valait 2 années de la vie réelle parce qu'en fait, ça allait tellement vite et en fait, t'avais tellement une autonomie, tu devais te démerder tout seul que.
C'était en quelle année?
C'était dans les années 2000, juste okay. Avant la bulle qui s'éclate, c'était en 99 ou 2000. Et donc, en fait, c'était vraiment intéressant parce que là, t'as appris un max de trucs et c'est quand tu retournais dans une entreprise normale, tu te rends compte que les gens, ils sont très très lents. Et pareil, quand t'es entrepreneur et blogueur, etc., tu vois que les gens sont, un, en retard par rapport aux tendances du marketing et deux, extrêmement lents. Il y a des risques, des validations et tout ça. Et moi, ce que je dis toujours, et c'est ce que je fais toujours maintenant, c'est ne demandez jamais la permission. Demandez pardon. Et c'est vraiment essentiel dans toute votre vie. Si vous voulez véritablement avancer dans la vie, que ce soit en tant que salarié, entrepreneur ou tout et n'importe quoi, ne dites pas, mais attendez, il faut que je voie avec mon chef ou il faut que je voie machin. Faites plutôt une erreur. Donc, demandez pardon et si vous êtes trompé, que demander la permission. Et c'est en fait dans pas mal de jobs. Au début, moi, j'étais un peu comme ça. Je n'osais pas, parce que je disais, mais il faut que je demande à mon chef, etc. Maintenant, je préfère dire ok, je prends l'initiative, je fais le truc,
t'es proactif,
même si je me plante, c'est pas grave, je dis, pardon, bah c'est pas grave.
Ouais, l'intention était bonne.
Voilà, l'intention était bonne, voilà. Et puis de toute façon, vaut mieux tester que de rien faire. Mm-hmm. Et ça, en fait, les gens ils adorent parce que si tu dois attendre l'aval de quelqu'un, tu finiras jamais.
Parce qu'en plus, quelquefois, de toute façon, ton supérieur il peut pas vraiment te donner l'autorisation, donc mieux vaut que tu le testes.
Exactement.
Sans même
bah, un exemple, il y a pas très longtemps. Donc en fait on avait un souci au niveau de la relance des prospects. On faisait mafier pas mal de salons, on a eu des gens qui sont venus, qui sont inscrits, qui ont donné leur numéro de téléphone, etc. Le problème c'est que quand tu as on va dire 500 personnes qui sont inscrites et tu dois les relancer et que tu as qu'une petite équipe de commerciaux, bah ça va me prendre du temps. Donc en fait je me dis attends, comment on va pouvoir faire ça? Et j'ai utilisé en fait le système des messages vocaux, c'est-à-dire que tu vas utiliser une solution comme par exemple VMS Online, qui permet en fait d'enregistrer un message. Tu dis bonjour, je m'appelle Frédéric, vous avez participé à notre salon il n'y a pas longtemps, est-ce que vous pourriez me dire si vous étiez intéressé pour tel truc? Donc tu enregistres ce message-là sur ton téléphone, tu le copies, tu le mets sur l'ordinateur, tu l'envoies comme si c'était un SMS, ça arrive en tant que message sur le répondeur, la personne n'entend même pas le téléphone sonner, elle voit juste qu'un message, dit ah, qui c'est ce gars-là? Et elle pense que tu l'as appelé, qu'elle a oublié le message en fait.
C'est
super efficace, t'as un taux de lecture est important. Donc ça permet en fait d'appeler en 3 secondes, grosso modo ça concerne chez nous 25% des formulaires enregistrés. Il y a à peu près 75% où c'est des gens qui sont, peut-être pas 75%, on va dire 60% des gens mettent un fixe, 40% mettent un smartphone. Et donc en fait tu les appelles au téléphone comme ça, et ça te permet de faire un premier tri et d'aller comme ça et choper uniquement les gens qui sont vraiment chauds. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, et en fait pour la petite histoire, donc mon boss... il a dit sur un coin de table, ah ouais, pourquoi pas, on pourrait tester. Bon, bah je l'ai fait, j'ai acheté, et tac. En fait, le truc, ça coûte 10 centimes, 15 centimes d'euros l'envoi, et ça permet de faire relancer 300 personnes en une demi-journée.
Bon,
après, il y a ton portable qui sonne, hein, parce que forcément, les gens ils disent, ah, vous m'avez appelé, ça m'intéresserait, justement, j'ai pas le temps de vous rappeler, etc., etc. Donc, un bon truc, quand vous faites un salon, un événement et que vous avez récupéré des 06, faites ça. Je le fais également. Par exemple, pour ma formation qui est liée au bouquin Le Growth Hacking, les gens en fait, qui doivent accéder à l'espace privé pour avoir les vidéos complémentaires au livre, parce que comme ça, il y a le bouquin, et je récupère à peu près 10 à 15% des gens qui ont lu le bouquin.
Alors,
l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas trop mis en avant ce truc-là, parce qu'en fait, on était en pleine écriture de bouquin, je n'avais pas fait l'espace membre et tout ça, et donc ça n'a pas été très bien valorisé. Mais donc voilà, j'ai 10-15% des gens qui s'inscrivent, et je leur mets en obligatoire le numéro de téléphone. Donc, ce qui permet après de pouvoir les relancer derrière. Donc, en fait, un nouveau canal qui est super pratique.
Énorme.
On peut le faire aussi en SMS. Hein, voilà.
Bah ouais, parce que taux d'ouverture énorme, encore une fois, les SMS, les messages vocaux.
Tout le monde nous lit les SMS.
Ouais.
T'as 80-90%. Après, quand on voit des SMS promo, grosso modo, tu peux compter entre 20-40% de véritables actions ou de réponses.
Ce qui est déjà pas mal.
Donc, alors voilà.
Alors, revenons-en à ton histoire.
À mon histoire, donc en fait, c'était. Je me suis dit, les jeux vidéo, voilà, c'est génial. J'ai travaillé dans une start-up, et là, dans une start-up, vraiment, tu apprends à te débrouiller. Tu t'apprends à être autonome, etc. Et ça, c'est quelque chose qui sert énormément. Moi, je dis toujours, j'ai des gens qui me disent, mais j'aimerais bien devenir community manager, quelle formation prendre? Et je dis, attends, déjà, tu vas commencer par créer ta page Facebook et ton blog, et c'est le meilleur moyen de pratiquer, parce que la formation reste toujours théorique, et ça évolue tellement vite nos métiers que tu dois pratiquer par toi-même, parce que c'est comme si on te disait, voilà comment fonctionne un moteur, bon alors vas-y maintenant, répare-le. Ah non, mais si t'es pas amusé un peu, tu n'y arriveras jamais.
Oui, c'est pas comme si tu voulais être chirurgien, là, ouvrir une page Facebook, un compte Twitter, ça se fait en 10 minutes. Quoi.
Voilà, exactement. Et puis, en fait, t'as une courbe d'apprentissage. Les personnes qui n'ont pas encore commencé à apprendre des bases, ils ont une courbe qui est assez longue. Donc toi, s'il y a un petit moment, t'as déjà une courbe d'apprentissage où t'as commencé à apprendre, t'es plus en bas de la courbe, mais t'es en haut de la courbe et tu pourras progresser plus facilement.
Ok, super. Et donc,
les startups ont fait un peu start-down, comme dans beaucoup de secteurs. Donc à ce moment-là, comme j'étais en bon relationnel avec un éditeur de logiciels de gestion qui s'appelait Ciel à l'époque, parce qu'on vendait leurs applications.
Une énorme boîte.
Ouais, c'était une boîte qui fait des milliards et des milliards, en fait, des milliers de salariés, des dizaines de milliers de salariés. On était 1500 à un moment en France. Et donc, en fait, ils m'ont dit, viens nous rejoindre, on a besoin d'un product manager qui connaît bien, comme toi, la compta, la gestion, le marketing, blablabla. Donc, je les ai rejoints, et puis je me suis occupé comme ça de pas mal de produits. Et puis, en fait, j'ai eu un choc. c'est grosso modo, ça va être en 2004-2005. Donc j'avais toujours un assistant, assistant chef de produit qui était avec moi, qui m'aidait. Et puis bon, moi qui venais des startups, je me disais, bon attends, ça va, je connais un peu tout. Et en 2004, j'ai un assistant qui est venu, c'est Guillaume Bretin, je m'en souviendrai toujours. Et en fait, le mec, il me montrait des sites que je connaissais pas sur internet, il me montrait des nouveaux outils. Je me disais, putain Fred, t'étais au top. Et là maintenant, en fait, il y a un petit jeune qui sort de l'école, qui en connaît plus que toi sur certains aspects du marketing, ouais. Surtout le marketing online. Je dis, oh putain Fred. Et donc en fait, ça m'a dit, putain, ouvre les yeux un peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout le temps vous former, tout le temps être ouvert. Et le fait de tenir un blog à titre professionnel, bah, vous permet en fait de vous obliger à parler d'actualité, à réfléchir et tout ça. Et moi, en fait, le fait d'avoir écrit mon bouquin, le Growth Hacking, ça m'a obligé à me spécialiser en Growth Hacking. Et ça m'oblige maintenant, parce que j'ai une formation continue qui se fait tous les mois, et je suis obligé d'écrire du contenu tous les mois, 2 heures de vidéo. Wow. Donc ça m'oblige en fait à monter en compétences, à avoir toujours des astuces, etc. Donc ça, c'est vraiment un top, parce que ça t'oblige à te auto-former. Donc le blog, même si c'est pas un truc que vous faites pour les autres, faites-le pour vous. C'est important. Donc voilà.
C'est à ce moment-là que tu lances un blog?
Alors, je lance un blog, ça doit être en 2008 que j'ouvre mon blog. Ah, c'est peut-être en 2008, ouais. Enfin, vers ces eaux-là, peut-être en 2007. Enfin, bref.
Ok.
Donc voilà, donc à l'époque, les blogs n'étaient quasiment pas connus, c'était vraiment le début. Mais en fait, la source véritablement de ce blog, c'était un projet avec deux potes. Parce qu'en fait, j'avais deux potes qui étaient développeurs. Et ils m'ont dit, attends, nous on s'est développé, toi tu es chef de produit. Attends, on devrait pouvoir à nous faire un truc. En plus, c'est des super développeurs, ils sont très 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 bons. Et puis on a dit, bah ouais, ok. Et puis on s'est dit à l'époque, bah, qu'est-ce qui marche bien? Et c'était le début de Mythique et tout ça. Et on s'est dit, ouais, les sites de rencontres. Nous aussi, à l'époque, on était célibataires. Et donc, bah voilà, j'ai dit, bah ok, très bien,
on va
Banco.
Joindre l'utile à l'agréable.
Voilà, Banco. Et donc, j'ai monté, donc il y avait mon blog marketing où j'avais écrit quelques petits trucs comme ça.
Donc c'était déjà conseil marketing
Ouais, sur Blogger en fait, à l'époque, okay. Blogspot. J'avais écrit 2-3 trucs comme ça un petit peu pour m'amuser parce que c'est mon pote, bah, mon stagiaire, mon assistant qui m'avait dit ça. Mon assistant. Et donc, j'ai monté comme ça, on a acheté un nom de domaine, et j'ai créé un blog pour préparer la sortie. Donc, c'était un blog sur la drague, la rencontre, la séduction, tout ça. Et eux, ils étaient censés créer le site. Et en fait, le problème, c'est quand tu travailles avec des amis et que tu n'as pas une expérience d'entrepreneur, et ben en fait, tu restes beaucoup sur la théorie. Donc, moi, j'avançais sur la théorie, le plan marketing, etc., etc. Eux, ils développaient, mais sauf que ben, ils voulaient toujours réinventer la roue. Ils voulaient toujours créer une super base de données qui serait valable en X langages avec la fonction inédite. Et là, en fait, avec le recul, je disais, mais non, il aurait fallu se concentrer sur ce qu'on appelle le Minimum Viable Product, le MVP. C'est-à-dire que quelle est la fonction essentielle qu'on va mettre en place, et on se concentre là-dessus, et on ne va pas faire toutes les fonctionnalités annexes. Parce que le gros problème actuellement de tout ce qui est logiciel, tout ce qui est application et tout ça, c'est que les gens, en fait, ils pensent qu'en ajoutant le plus de choses possibles dans leur truc, ça va plaire encore plus. Ce qui est exactement l'inverse. Quand tu fais, par exemple, moi j'ai sorti une app mobile il n'y a pas longtemps, et ben, pour le boulot cette fois, et ben, en fait je me suis concentré sur les fonctions essentielles et je n'ai pas été chercher les trucs qu'il y a autour. Et surtout, il faut écouter le client.
Bah, ouais.
Et donc, par exemple, pour mon projet là, que j'ai sorti en app mobile, comment s'est déroulé le projet? Et ben, tout simplement, j'ai interviewé une quinzaine de nos clients au téléphone via Skype avec des entretiens qui durent à peu près une trentaine de minutes à chaque fois. Alors, je disais, bah, voilà, au début, quelles sont vos peurs? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, etc., etc. Puis après, une fois que tu as travaillé sur leurs peurs, leurs rêves de leur métier, tu vois un petit peu ce qu'ils intéressent. Et tu leur dis, ben voilà, si je vous posais un produit qui faisait ça, 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 je vous montre une démo, une maquette que j'avais fait avec un outil de démo qui s'appelle Just In Mind, et tu vois leur réaction. Ah ouais, non, ça me plaît, non, ça me plaît pas, machin, etc. Et comme ça, tu affines au fur et à mesure ta maquette, et avec ces entretiens qualitatifs-là, tu vois si tu valides le truc. Après, il y a la pertinence du marché, parce que là, tu valides un concept, mais parfois, en fait, les gens n'ont pas ce qu'on appelle un feedback honnête. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils savent que c'est toi, que c'est ton produit, parfois, ils ont tendance à se dire « ouais, c'est pas mal ». Donc, à la fin, il faut toujours dire, dans ces entretiens qualitatifs, « est-ce que vous l'achèteriez ?» Et les gens disent « ouais, je pense que j'achèterais ». Mais la solution, c'est de leur dire « si je te donne 1000 euros, est-ce que tu mets 1000 euros dans cette application-là ou dans un autre projet ?» Et là, ils vont dire, ah bah non, si j'ai 1000 euros, je mettrais plutôt là-dedans. Et là, tu peux te dire, ah bah non, mon concept n'est pas encore assez fort. Donc là, tu valides de manière qualitative. Et ensuite, tu le valides de manière quantitative. Et si tu n'as pas beaucoup de budget, tu fais du Facebook Ads ou Google AdWords. Et tu testes ton projet avec des landing pages et machin.
Génial.
Nous, comme on avait un forum client, donc en fait, on avait 200 clients qui venaient. Et donc, j'ai eu un atelier qui parlait de ça. Et on a fait la promo également lors de la conférence. Et là, tout de suite, tu vois, devant l'assemblée, qui veut acheter le produit? Ah bah oui, moi, ça m'intéresse. Et tac, en fait, fait, tu as déjà ton pool de clients, tu n'as pas encore fait le produit, tu as juste une maquette que tu as créée, et les gens disent ok, j'achète. Et comme ça, on a eu nos deux premiers clients quasiment coup pour coup, et on s'est dit banco, on a réussi à avoir deux clients qui sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros, on est parti là-dessus. Et tac, on a lancé le projet.
Génial. Le prochain livre que tu sors, c'est sur les lancements de produits, les startups ?
Non, parce qu'en fait, c'est quand même. Écrire un bouquin, même si ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Je t'explique pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, le bouquin, on l'a travaillé à distance avec un autre gars. On a tout travaillé avec Google Docs. En fait, le plus long, ça avait été de faire le plan détaillé. Et vraiment, quand on a fait tout un plan détaillé avec ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, le minutage et tout ça, et en disant, bah non, ça, on coupe, ça, on fait ceci, cela. Quand tu as travaillé là-dessus, tu écris le texte. Et moi, j'avais pas mal de choses qui existaient sur mon blog. J'ai fait du copier-coller, j'ai adapté, etc. Donc, je pense pas que j'ai passé plus de quelques jours. C'était pas le plus long. Mais c'est après, tu as la partie promotion, la partie relecture. Et en fait, à cause de ça, j'ai négligé un petit peu mon blog. Et puis en plus, j'ai été papa aussi pendant. Et je me suis cassé l'épaule. Enfin, j'ai eu toute une histoire. Et donc, en fait, j'ai pas fait attention à mon trafic de mon blog. Et j'ai eu une sanction Google. Et en fait, j'ai eu mon trafic qui a baissé pendant plusieurs mois. Et en fait, le temps que je revienne un petit peu à la normale, parce que tu sais, quand tu sors un bouquin, tu as des interviews, tu as des soirées, des machins et tout ça. Et en fait, ça te prend du temps. Ouais. C'est comme ça, quand tu sors un produit, ton business à usual, tu le maintiens pas comme tu devrais. C'est comme aussi les gens souvent qui créent une boîte, une start-up ou qui ont un super produit. Souvent, on les invite à des soirées, à des bidules, parler, speaker et tout ça. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils négligent leur business pro. Et en fait, souvent, ils prennent un coup dans la gueule. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Il faut véritablement essayer de prioriser son temps et pas trop en donner. Moi, j'essaye vraiment de gérer mon temps de manière optimale. Et y a une méthode que je suis en train de tester actuellement qui est pas mal. Parce qu'en fait, moi, j'utilise beaucoup la méthode GTD, Get Things Done, de David Allen. C'est-à-dire que tout ce qui dure moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Tu calmes dans ton agenda des plages de travail pour tous les trucs. Tu vois, mon agenda, il est souvent blindé pour la semaine parce que là, tu vois, ce matin, j'avais pris une demi-heure pour faire un petit boulot de PowerPoint. J'avais pris une heure pour préparer une démo. J'avais pris ensuite une demi-heure pour faire un point sur une réunion que je dois organiser, etc., etc. Donc, en fait, je calme ma journée. Ce qui me permet tout simplement de pas m'éparpiller et de faire les choses que je dois faire. Donc la méthode GTD, elle est excellente pour gérer de manière efficace tous tes trucs simples. Donc dès que tu reçois un email, soit tu le tries, soit tu réponds, soit tu l'archives. Voilà, grosso modo. Donc tu tries facilement. Si ça dure moins de 2 minutes, tu fais l'action tout de suite. Donc ça te permet d'avoir une grosse réactivité. Ensuite, tu cales dans ta semaine tes plages de travail. Dès que tu reçois un email, tu cales dans ton agenda Outlook ou Gmail ou n'importe quoi la copie du mail et le truc qui dit je ferai telle date, ce qui permet de décharger l'esprit et d'être un peu plus serein. Wow. Donc ça, c'est la méthode GTD qui est très efficace. Le problème de la méthode GTD, c'est qu'en fait, tu deviens rapidement esclave de ta to-do list et tu as une to-do list énorme et tu n'avances pas sur forcément tes sujets prioritaires. Donc c'est pour ça que
justement, moi j'aimerais qu'on parle de ça, la gestion entre donc ton, alors on y est même pas encore arrivé, mais ton travail à plein temps en journée et ton temps de travail le soir et le week-end, et on va même pas parler de la famille en plus parce que c'est encore plus compliqué, mais déjà d'avoir un blog, alors tu nous rappelles le trafic de conseil,
à peu près 10 000 par jour, 10 000 visiteurs par jour,
10 000 par jour,
mais je me suis limité parce qu'avant avant que j'ai une femme et des enfants et deux enfants, j'avais donc mon blog conseil marketing, j'avais mon blog sur la drague que je, en fait j'avais organisé une routine, c'était vraiment une routine, c'est-à-dire que le dimanche après-midi, j'avais mon article de blog créé, un gros article de blog, même à un moment donné je crée un tout petit article tous les jours sur conseil marketing, j'avais un article sur la drague à écrire, et puis je crois que je faisais une petite newsletter, un truc comme ça, et donc en fait j'avais toute ma routine et tout était organisé, tout tournait, etc.
Sauf qu'en
fait
je diluais machine.
En fait j'avais optimisé mon temps, et avec ce fameux système de David Allen où tu cales ton agenda, où tu te crées des routines, en fait quand tu compiles tout en même temps, finalement, c'est rapide au lieu de t'éparpiller. Le problème, c'est l'éparpillement actuellement. Par exemple, moi, j'essaye de lutter contre ça. Et quand tu es au travail, parfois, moi, tu bosses sur un truc et puis en fait, t'as une tendance à zapper. Tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Facebook, puis tu recommences à bosser, puis tu fais une petite pause, tu bois un petit café, puis tu dis « Oh, j'ai envie d'aller pisser » ou « Tiens, je vais aller me faire un
collègue,
thé, etc. » Voilà. Ouais. Donc, en fait, il faut essayer de vraiment de se concentrer sur des tâches. Et je pense que le succès des gens qui réussissent bien, c'est de pouvoir se concentrer sans être distrait. Donc, par exemple, moi, j'ai arrêté les notifs d'Outlook, les notifs en fait, d'email, les notifs de SMS, ce qui permet en fait de être tranquille. Si jamais les gens veulent te joindre, ils t'appelleront sur son portable, ça sonnera. Donc, tu fais ça et tu restes sur des plages de travail vraiment importantes et tu essayes de pas y sortir. Le deuxième point, c'est donc la méthode GTD, très bien pour gérer le court terme, mais c'est pas bon pour gérer en fait les objectifs long terme. Parce qu'en fait, tu auras tendance à pas faire ce qui est dur. Parce que le problème en fait de l'être humain en général, c'est qu'il aime bien la facilité et c'est tellement simple de procrastiner, de repousser. Donc en fait, en complément de la méthode des GTD, c'est de se dire qu'est-ce que tu dois faire dans la semaine, qu'est-ce que tu dois faire en fait dans le mois ou dans le trimestre. Et ça en fait, ça te permet d'éviter par exemple de procrastiner. Moi actuellement, je suis en train de refaire un business plan complet sur mon activité, le business model, comment générer plus de business, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à le faire, mais comme c'est un sujet qui est à la fois très important, mais qui est très dérangeant. Donc en fait, c'est un sujet que j'ai tendance à repousser. On se dit, ah non, mais bro, je vais plutôt faire ma compta, et puis ceci, cela. Et puis tu trouves un moyen de. Enfin, tu trouves un truc que tu aimes bien faire. Moi, des fois, ça m'arrive le soir, je dis, oh, ben allez, je vais m'écrire un petit article, ou je vais répondre à une question sur Quora, ou tiens, je vais me regarder un petit film, etc. Donc il faut essayer de se fixer ça, et ça permet véritablement d'être au top.
Alors, on a déjà beaucoup d'éléments. J'aimerais juste qu'on revienne sur la dernière partie de ton histoire qui te mène jusqu'à aujourd'hui. Là.
Ouais. Alors donc voilà, la startup avec les potes, ça fait start down aussi. Donc, je me suis retrouvé product manager, donc bien payé, avec des belles missions, des déplacements à l'étranger. Un poste qui était une boîte en plus qui était super promoteur quoi. En fait, t'as les années, je les ai pas vu passer. J'ai passé quasiment 13 ans là-bas et chaque année, t'as tellement de pression, tellement de trucs que t'es dans une machine. En fait, t'as déjà vu un rat qui court dans une roue là et t'es comme ça. Et donc, t'arrives le matin, même fois, ça m'est arrivé de me retrouver à midi et pas avoir eu le temps de pisser ou alors trop speed, faire des réunions de travail. Et même bon, c'est passionnant parce que t'es vraiment taqué, etc. Donc voilà, mais quelque part, t'es un petit peu frustré parce que. Plus tu es dans une grande entreprise, plus tu es rangé en fait dans une boîte et tu deviens un hyper spécialiste de ton métier. Et le problème de l'hyper spécialisation, c'est qu'après, tu pourrais t'embaucher que dans une autre boîte. Et en plus, c'est hyper frustrant parce que moi qui connais le marketing au sens large, j'étais vraiment frustré depuis le début de mon boulot de product manager à pas pouvoir dire au mec de la com, putain, mais ce que tu fais, c'est de la merde quoi. Ou alors, moi j'avais chez nous, il y a du marketing digital, ils ont jamais su animer un blog, ils ont jamais su animer les médias sociaux jusqu'à il y a quelques années. Et donc tu dis, c'est pas possible. Et donc en fait, avoir mon propre business à côté, c'était donc cette volonté de pouvoir faire un truc que j'aime. Et deuxième chose, ben, comme je vous disais, mes parents étant commerçants, ben, j'ai toujours été habitué à monter mon business. Entre temps, tiens aussi, j'ai monté aussi un magazine avec un pote. On a fait à peu près 6-7 numéros d'un magazine sur les smartphones, les consoles.
Un magazine papier ?
Papier, ouais.
Waouh !
Ouais, ça s'appelait Mobiles. Mais en fait, malheureusement, on l'a lancé juste au moment où la presse commençait à tomber. Et donc, bon, on a fait quelques numéros. C'était une belle histoire aussi. Et la moralité de ça, c'est qu'en fait, le cash, c'est véritablement le carburant de l'entreprise. Parce que, et parfois, il faut savoir se dire aussi stop ou encore, ou faire un bilan de son activité. Parce qu'en fait, j'ai bossé avec un pote qui était journaliste et il m'a dit, bah, tiens, moi, j'ai besoin de toi pour faire un peu de market, pour écrire des articles et tout ça. Et moi, en fait, bon, j'ai pas forcément les finances, mais je saurais écrire des articles et tout ça. Et je connais un peu comment ça marche, le milieu de l'impression et tout ça. Et donc, en fait, on s'est lancé, mais à la fleur au fusil. Mon pote, il avait fait au début imprimer en France, qui était super cher, alors qu'en Belgique, c'était beaucoup moins cher. Au début, on n'a pas su un petit peu notre positionnement. Enfin bon, on a tâtonné, et puis au bout d'un an, quasiment, on avait tout grillé le cash. Et c'est la question, on s'est dit, ok, stop ou encore ? Et en fait, là, on a dit stop. On a failli même vendre le magazine, le concept à un éditeur. Mais finalement, c'était trop compliqué. Mais donc là, c'est important de savoir gérer sa trésorerie. Essentiel, parce que quand tu n'as plus de cash, eh ben, l'entreprise s'arrête. Même si l'idée est bonne, même si on arrivait quand même à faire des trucs, mais on s'est dit, on laisse tomber, on va partir sur un truc. On avait misé, je crois, 20 000 euros, quelque chose comme ça. Ou j'ai dû mettre 15 000, ou je ne sais pas. Bon, bref.
Alors, tu montais ça en parallèle à ton
boulot. Ouais, en parallèle de mon job.
Tu faisais ça comment ?
Ben, en fait, c'est simple. Moi, je travaille quand même beaucoup au travail. Tu vois, je fais grosso modo du 9h15 jusqu'au 19h30. Avant, je faisais même plus qu'à l'époque de la start-up. C'était 21h30 tous les soirs et le samedi, même on a fait à Noël envoyer des colis. Enfin, tu vois, le truc. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'aller optimiser son temps quand tu rentres chez toi. Il y a quelques temps, donc, j'étais célibataire, donc c'était beaucoup plus simple. J'avais calé en fait dans mon agenda des dates où je me disais, ben, là, je bosse, là, je me fais plaisir. Et j'ai géré aussi des priorités par année. Donc, c'est-à-dire que, une année, je me disais, bon voilà,
Je me donne pendant un an pour travailler sur mon blog et je restreins mes sorties. Mais par contre, le samedi soir, c'est toujours grosse soirée. Le jeudi soir, c'est toujours grosse soirée. Mais lundi, mardi, mercredi, ben là, c'est boulot. Et tu te donnes en fait des créneaux de travail. Ce qui est important, c'est pas trop en faire. Parce que si tu en fais trop, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te démotiver. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que le soir, j'arrive pas à bosser correctement avant 21h30. Si je bosse avant 21h30, qu'est-ce qui se passe? J'aurais tendance à aller sur YouTube, regarder une vidéo, faire un truc et ceci, cela. Alors que maintenant, j'ai décidé d'assumer. Et donc, jusqu'à 21h30, bah, je vais avec ma femme, ma fille, on discute et tout ça. Puis à 21h30, je dis bon, ok, d'accord. Allez, c'est fini, maintenant je bosse. Et voilà. Ce qui est important,
jusqu'à quelle heure?
Oh, ça dépend, minuit. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ma fille est en 5 mois et qu'elle me réveille à 6h du matin, c'est plus compliqué. Mais voilà, tu as des périodes de calme en plus. Et surtout, j'essaye de ne pas être distrait. Je ne mets pas la musique. Je mets pas de... Avant, je mettais des reportages télé, je mettais des trucs. Non, je reste vraiment en mode concentration. J'essaye de me concentrer sur ce qui va vraiment apporter de la valeur. Parce que c'est facile de se disperser et de se dire « je fais un truc utile ». Mais non, ça ne va pas forcément aider à ton business. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, et aussi optimiser son temps. Par exemple, tu vois, quand j'étais chez Sedge, tous les matins en allant au boulot, j'avais un trajet entre le métro et le boulot d'à peu près 7 minutes. Et pendant les 7 minutes, je faisais un petit podcast sur le trajet. Et là, en fait, bah, j'ai commencé un petit peu à le refaire. Normalement, vous devriez voir bientôt des nouvelles vidéos qui vont être faites sur le trajet entre chez moi et le boulot. Donc voilà, optimiser son temps, être focus, travailler sur ce qui est important et surtout se mettre la pression. Alors, comment tu te mets la pression? C'est-à-dire que soit tu te mets la pression en disant je vais devoir faire ça parce que je l'ai annoncé sur mon blog ou je sors un article toutes les semaines. Enfin, il faut se mettre une routine et une pression qui t'obligera à faire un certain nombre de choses. Parce que le problème de. Parfois, quand tu es salarié, c'est que tu n'as pas la pression. Ou quand tu es consultant, tu es chez toi. Et puis, de toute façon, que c'est fait, c'est pas fait.
Ça tombe. Ça ne change pas tant que
voilà. Et donc là, il faut se mettre la pression en disant tiens, mon objectif, c'est faire ça. Ou alors ma routine, c'est écrire un article à telle date, à telle date, à telle date.
Alors, t'en penses quoi du thème de la passion? Est-ce qu'on doit se lancer dans quelque chose qui nous passionne? C'est quoi ton avis?
Alors,
c'est la question.
Je suis mitigé là-dessus. Autant, en fait, si tu as la passion, comme moi, tu ne verras pas passer ton temps. C'est-à-dire que tu vas y consacrer du temps, tu vas être super bon dans ton domaine, tu vas vraiment apprécier. Le problème de travailler pour la passion, enfin, il y en a deux. Le premier, en fait, c'est quand tu es passionné, tu as parfois... une tendance à te sous-estimer, à te sous-valoriser, et en fait, tu vas pas accepter de payer cher, tu vas offrir des choses, etc. Or, en fait, tu apportes de la valeur, et c'est normal que les gens, en fait, ils payent pour ça.
J'avais jamais vu ça comme ça.
C'est important parce que moi je vois, j'ai encore eu hier soir un gars qui me dit tiens, est-ce que je peux t'appeler? Je vais monter une boîte, est-ce que tu veux du coaching? Je dis non, je fais pas de coaching, j'ai plus le temps actuellement. Il dit ouais, mais est-ce qu'on peut s'appeler un quart d'heure? Je dis ok, si tu veux, tu m'appelles pendant les transports, j'ai une demi-heure de battement, tu m'appelles. Et puis voilà. Et en fait, je dis, il me dit, ouais, tiens, je suis dans telle situation, j'ai besoin de faire ceci, cela. Je dis, ok, alors je te réponds, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tiens, t'as tel outil, blablabla. Ça, en fait, c'est sympa, mais tu fais une réponse de passionné. Je lui ai donné une demi-heure de coaching gratos, alors que normalement, tu dirais, attends, prends ma formation vidéo, ou alors,
Fais
ceci, cela. Donc, c'est le problème, en fait, du passionné. Le deuxième problème, en fait, du passionné, c'est qu'en fait, toutes les passions ne sont pas rentables. Tu peux dire, par exemple, je connais quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Et le problème, c'est que tu veux bien monter un blog sur l'art ou la broderie ou des choses comme ça, mais vas-y, gagner de l'argent. Ou alors, faut trouver un business model qui fonctionne.
Voilà, en fait, c'est ça, c'est que quand on est passionné, il faut aussi avoir l'intelligence, les connaissances, les compétences, et il faut peut-être aller voir plus loin et explorer plus loin.
Ouais, alors déjà, ce qui est compliqué, c'est que souvent les passionnés sont des salariés. Être salarié et entrepreneur, c'est pas la même chose. Salarié, en fait, tu es payé à passer du temps dans l'entreprise. C'est ça, en fait, le business model. Tu vends ton temps. Or, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu vends plus ton temps. Tu vends du résultat. Enfin, du résultat. Tu dois dégager du chiffre d'affaires. Si t'as beau avoir passé toute la journée devant ton écran à faire des trucs, ou toute ta journée dans le magasin, ou toute ta journée sur un salon, ou je ne sais quoi. Si t'as pas vendu, t'as pas fait ton boulot. Moi, je connais un gars, qui était un ancien collègue de bureau chez Sedge. En fait, il était salarié pendant des années. Et puis, il a eu une restructuration dans la boîte, il est parti. Il a monté son truc de coach.
Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a eu un beau pactole, hein, il a eu vraiment beaucoup d'argent, de quoi tenir 1-2 ans facilement. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par se former au coaching, ensuite il a passé du temps à créer sa société, à faire sa plaquette, à faire ses cartes de visite. Et on se retrouve 1 an et demi plus tard, et je dis bah ok d'accord, mais t'en es où? Ah bah là je viens d'avoir l'agrément pour être formateur agréé. Je dis mais attends, mais t'as combien de clients? Ah ben celui que j'ai eu la dernière fois là où j'ai fait un peu de formation et puis bon là j'ai des pistes. Je dis mais attends, mais arrête un peu de passer du temps à faire ta plaquette, ton site internet, ton logo et tout ça, mais trouve des clients, fais du business. T'es pas salarié.
Ah, et quelquefois les allocations chômage peuvent faire mal quoi. Moi j'en connais aussi des gens comme ça qui profitent de ça et qui à la fin se réveillent et se disent bah mince, ça va bientôt s'arrêter là.
Ouais, et là c'est trop tard parce qu'en fait quand tu fais jouer le réseau et tout ça, c'est trop compliqué. Donc et entrepreneur salarié, c'est très différent.
Il y a un truc que tu m'as dit un jour qui m'a vraiment marqué, c'est que dans ta journée, quand tu es sur ton blog, tu dis toujours qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rapporte de l'argent.
Voilà, en fait, c'est se dire tous les 4 heures, quand tu es indépendant, est-ce que j'ai fait quelque chose qui allait me rapporter du pognon? Est-ce que c'est par exemple un emailing?
Sur le court terme.
Voilà, court terme. Est-ce que c'est par exemple envoyer un emailing? Est-ce que c'est créer un produit? Est-ce que c'est faire une optimisation de la conversion du site internet? Est-ce que c'est faire un tweet sur un truc, etc., etc. Donc c'est vraiment important. Puis c'est également travailler en mode business model. Moi je le dis vraiment, là tu vois, je suis en train de retravailler tout ce qui est conversion et tout ce qui est business, parce qu'en fait je stagne. Je vois que je stagne, je suis à 45 000 de chiffre d'affaires pour une activité à temps partiel, je fais 10-15 000 de bénéfices chaque année, mais ça fait déjà plusieurs années où je stagne. Alors des fois je diminue des choses, j'augmente des trucs, mais ça reste toujours à peu près à ce niveau-là. Alors ça fait un complément de salaire qui est assez sympa, mais je stagne. Et donc en fait, il faut que je passe en fait à la vitesse supérieure. Et pour ça, il faut accepter donc de revoir les choses. Par exemple, vendre des produits plus chers, revoir la gamme de produits, revoir la conversion, revoir ceci, cela, et se remettre en question. Et il y a plein de gens comme ça qui ne savent pas se remettre en question.
Tellement important.
C'est pour ça que dans mon bouquin, de le close hacking, je mets en avant ce qu'on appelle le tunnel AAR. AAR, en fait, c'est tout simplement faire un tunnel. Alors, c'est pas vraiment un tunnel parce qu'en fait on parle plutôt d'entonnoir. En fait, tu vas diviser en fait tes ventes avec ici un petit entonnoir. Alors non, c'est pas un pubis, c'est un entonnoir des ventes. Donc en fait ici, ben qu'est-ce que tu as? Tu as ici le nombre de prospects que tu vas générer. Et donc en fait, tu vas prospecter par exemple, c'est des gens qui vont venir sur ton site internet. Ou alors si tu as un restaurant, c'est les gens qui passent devant ton restaurant. Et donc après, tu as des prospects. Ce qui est important, c'est soit en fait les récupérer leurs coordonnées. Si tu les inscris à ton utilisateur et ensuite vendre, soit en fait quand tu es dans un restaurant, c'est les gens qui rentrent dans le restaurant. Et donc tu vas te dire, bah, ok, comment je peux faire pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent dans le restaurant? Ensuite, une fois qu'il y a des gens qui sont dans le restaurant, est-ce qu'ils vont revenir? Alors, régulièrement, comment je vais faire pour qu'ils reviennent? Ensuite, si j'ai un blog, ben, comment je vais faire pour garder les gens? Par exemple, ma formation vidéo comme toi en abonnement. Comment je vais faire après pour faire du bouche-oreille, pour qu'ils en parlent aux autres? Et comment je vais pouvoir augmenter mon revenu? Faire de l'upsell, du cross-sell et tout ça. Donc en fait, tu dois modéliser ton activité, et ça c'est valable pour n'importe quoi. Par exemple, là dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement, on génère énormément de prospects, sauf que derrière la conversion est minable. En fait, on a un tunnel où il y a qui est comme ça, et comme ça en fait, où tu as beaucoup de prospects, mais en fait derrière on fait très peu de démos, on fait très peu de présentations. Dans ces démos ou présentations, on en gagne quand même pas mal. On a un pourcentage de concrétisation qui est bien. Puis après, on arrive un peu à faire du parrainage, du bouche à oreille et un tout petit peu d'upsell. Mais finalement, le problème, il est là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mauvaise gestion des leads. Et c'est pour ça que je te parlais de relancer par VMS Online, les messages locaux, améliorer la conversion, mettre du message en autorépondeur, faire du face-to-face. Enfin bref, tu dois analyser ton activité, c'est valable partout. Et c'est ce que j'ai fait chez moi, pour mon blog à moi. Je dis, mais attends Fred, t'as 10 milliers de visiteurs, déjà essaye d'avoir un meilleur taux de conversion. J'étais à 1 et quelques et je suis passé à 2 et quelques.
Qui s'inscrivent à ta newsletter.
Ouais, qui m'inscrivent à ma newsletter, ce qui est pas mal parce que sincèrement, 2% c'est pas le truc le plus exceptionnel, mais j'ai plein de gens qui sont hors cible, comme j'ai un vieux blog avec plein de thématiques.
Et puis t'as beaucoup de trafic.
Ouais, et puis des gens qui sont d'Afrique, des gens qui sont dans d'autres pays. Des gens qui sont intéressés par le développement personnel, or c'est plus par l'e-commerce. À un moment donné je faisais beaucoup d'e-commerce parce que je venais de là, mais j'ai arrêté parce que c'est trop différent de ce que je fais maintenant. Et donc en fait j'ai un peu de hors sujet, mais j'arrive quand même à convertir bien. Maintenant j'ai amélioré vraiment ma conversion sur ces populations là, mais je me suis rendu compte, ok, tu fais une bonne conversion, mais est-ce que derrière tu vends plus. Et je me suis rendu compte que j'avais une faiblesse également au niveau de la conversion. Et là, je suis en train de revoir toutes mes pages de vente. Donc, j'ai revu énormément de pages de vente sur mes produits. Je suis en train de travailler sur des offres d'upsell. C'est-à-dire que dès que, les classiques, hein, dès qu'en fait, tu vends un petit produit, à, par exemple 7 euros, là, je vais mettre en place un tunnel où je vais proposer, bah, attendez, je vous propose pour X euros une offre exceptionnelle en plus. Et après, en fait, tu peux même faire un autre tunnel derrière, un autre upsell, en disant, bah, vous avez acheté ce produit-là, mais attendez, il y a celui-là qui est encore plus génial. Et certes, tout le monde ne va pas faire les upsells sur 3-4 niveaux, mais grâce à ça, quand les gens sont en démarche d'achat, c'est le moment qu'il faut aller continuer à leur faire vendre. Et grâce à ça, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 20%. Donc rien que le fait d'avoir revu mes pages de vente, revu mon marketing automation en segmentant, je suis passé d'AWeber à GetResponse, j'ai créé une dizaine de listes, j'ai une vingtaine de magnets, en fait, de bonus spécifiques par secteur, j'ai donc des séquences d'emails spécifiques, j'ai de nouvelles landing pages et j'ai maintenant des upsells. Et ben en fait, j'ai multiplié vraiment mon chiffre d'affaires, je pense, par deux au niveau de mes formations vidéo, alors que je faisais beaucoup de pubs à l'affichage. Parce que tu vois, comme je te disais, j'ai perdu du trafic, je pense que j'ai perdu 25% de trafic en début d'année parce que je sanctionne Google, parce que j'ai rien fait, etc. Et bien pourtant, et ben je suis au même chiffre d'affaires, même sans doute plus de chiffre d'affaires grâce à ça, grâce c'est à mes énorme. Optimisations. Donc si je l'avais fait auparavant, ça aurait été encore mieux. Okay. Donc voilà.
Alors moi j'aimerais qu'on termine par une question qui est voilà, quel message tu as.
Ah, tu m'as demandé comment gérer en parallèle aussi les deux jobs.
Ah oui.
Ouais. Alors c'est vrai qu'on a. Donc.
Bah justement, c'est lié à la question que je voulais te poser. Quand tu es salarié, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer à côté et lance un business en ligne pour plus tard vivre de cette activité?
Alors la première chose, c'est ce que je disais auparavant, être salarié et être entrepreneur, c'est deux mentalités différentes. Donc ne le faites pas par dépit. Dites pas, putain, j'en ai marre de ces cons, j'en ai marre de ma boîte. Parce que c'est souvent ce que je vois, moi, les mecs, ils disent, j'en ai marre de ces cons, ils connaissent rien, etc. Et tu peux pas... Enfin, il faut avoir l'envie. L'envie de faire quelque chose. Et pourtant, l'envie, il faut faire attention justement à ce que l'envie soit rentable. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont consultants, entrepreneurs, etc. et qui vivent pas bien. Qui vivent pas bien parce qu'ils ont mal choisi la niche, ils ont mal choisi leur niveau de prix, etc. etc. Donc, c'est important déjà avoir la bonne motivation. Est-ce que c'est plutôt changer de boulot que changer de se mettre entrepreneur? Il faut vraiment avoir cette motivation-là, savoir ce que c'est le métier d'entrepreneur. Parce que le métier d'entrepreneur, c'est faire tout. Tu vois, moi, je fais ma compta, je fais mon site internet, je fais mon dépannage, je fais mes cartes de visite et tout ça. Donc, ça nécessite en fait de connaître beaucoup de choses et il faut vraiment regarder un peu comment ça se passe et discuter avec les entrepreneurs. C'est important de discuter avec des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu es avec uniquement des gens qui sont salariés, ils peuvent te démotiver. Ils ne savent pas ce que c'est. Ou alors, ils ont une vision déformée. Donc, discuter avec des entrepreneurs, comment ça marche, leur demander des conseils. Parce qu'en fait, quand tu te lances comme ça, c'est comme si tu voulais devenir, je sais pas, biathlète. En fait, tu ne vas pas te lancer comme ça en étant biathlète. Tu vas essayer un petit peu de comprendre un peu comment ça marche et voilà, avoir des conseils d'experts. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, quand tu es dans ton entreprise, fais-le en side business. C'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te réserver du temps, que ce soit toutes les semaines ou tous les jours. Moi, je vous conseille plutôt, c'est de travailler en fait en plage de travail. En plage de travail, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bah voilà, comme pour moi, à un moment donné, j'ai voulu me lancer en indépendant, en blogueur indépendant, je crois que c'était en 2009 ou 2010, très peu de temps après. Et en fait, j'étais parti de la mauvaise optique. Je me disais, je vais gagner de l'argent avec les revenus publicitaires. Et à l'époque, je n'avais même pas de produit d'affiliation, j'avais quasiment rien. Et donc, en fait, je me dis, mon objectif, c'était de gagner, je crois, 1500 euros. Et à 1500 euros, je faisais une rupture conventionnelle et puis je fais ça. Donc, pendant un an, je me suis dit, mon objectif, c'est ça. Tu vas te réserver 3 soirs par semaine là-dessus, plus le dimanche après-midi. Et tu vas essayer d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires de temps. Et donc, tu te fixes ces objectifs-là et tu suis avec ton avancée. Et ça, c'est super important parce que si tu es en mode le rêve, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en mode le rêve. Un jour, je vais monter ma boîte. Ou, en tout cas, c'est la danseuse, c'est le truc qui leur permet de vivre, de dire ah ouais, mais de toute façon, je vais monter ma boîte un jour. Moi, je faisais le salon des entrepreneurs et les salons de la micro-entreprise tous les ans quand j'étais chez Ciel et je revoyais tout le temps les mêmes boîtes, les mêmes gens qui n'avaient toujours pas créé leur entreprise. Ils disaient ouais, mais je vais créer ma boîte cette année. Ah, vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous faites, etc. Je vais créer. Non, il faut que tu réserves du temps. Tu te fasses une routine, c'est important. C'est par exemple tous les jeudis soirs, je bosse là-dessus. Il faut y consacrer du temps, c'est malheureusement des sacrifices, il faut le dire. Faut pas remettre de côté sa famille, mais il faut expliquer, ma chérie ou machin, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de regarder la télé ensemble, tel truc. Moi, j'ai plus de télé depuis déjà des années, ça fait peut-être 10 ans. Donc la télé, c'est un bouffeur de temps. Les jeux vidéo aussi, on va se faire plaisir, mais il ne faut pas non plus se faire bouffer avec des trucs qui ne servent à rien. Donc okay. Réserver du temps, faire une routine, se définir des objectifs, se faire des milestones, c'est-à-dire des étapes clés, et donc commencer ton side business. Et donc tu rencontres aussi un petit peu des gens dans ton secteur d'activité, tu discutes un peu, tu essayes d'avoir le plus tôt possible tes clients. Si tu as des clients, déjà, ça montre que c'est plutôt positif, si les gens te demandent des prestats, etc. Donc tu fais ça, et si jamais ça marche bien, après tu pourras en fait travailler, comme là on le fait, tu vois, on est à la pause de midi, et tu travailles sur ce temps-là. C'est-à-dire que tu peux dire, une fois par semaine à la pause de midi, au lieu de déjeuner avec les collègues, comme d'habitude, je prends un sandwich, je mets, comme on l'a fait, dans une salle de réunion, et puis on bosse là-dessus. Voilà.
Super, merci Frédéric. Un dernier mot pour terminer. Donc, je rappelle, Frédéric, retrouvez-le sur conseilmarketing.com, le livre Le Growth Hacking de chez Juno. Ouais. Puis voilà, un dernier mot à partager à ceux qui nous regardent.
Alors, en fait, je voudrais... 3-4 trucs que j'avais noté dans la préparation de notre entretien que j'ai pas eu le temps d'évoquer là, c'est n'essayez pas la perfection. Je connais un gars, on se coach nous-mêmes, on a un mastermind privé, c'est-à-dire que avant c'était tous les deux semaines et maintenant on est passé tous les mois. Tous les mois en fait on s'appelle au téléphone et on se prend une heure pour suivre un petit peu notre activité, nous motiver. Parce qu'on est un petit peu dans le même cas, il est l'inverse de moi, voilà. On s'appelle régulièrement et ça permet de se motiver. Donc voilà, ce qui est important, c'est essayer de ne pas faire la perfection. La perfection, c'est le gars dont je vous parle, il veut avoir son truc qui est génial, son site internet qui est hyper classe. Et à chaque fois, il dit « Ouais, je suis en train de mettre en place le plan d'action, je suis en train de travailler sur le site. » Non mais on s'en fout, n'essaye pas d'avoir un truc parfait, essaye déjà de faire un truc. Donc voilà. La perfection,
génial.
C'est beaucoup de gens me disent la perfection c'est la clé du succès. Oui, mais il faut se lancer. Deuxième chose, savoir un petit peu aussi utiliser la méthode, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la méthode 5-4-3-2-1. C'est-à-dire que beaucoup de gens réfléchissent de trop.
The 5-second rule.
Voilà, 5-second rules. Et donc en fait, des fois, quand tu as un truc à faire, réfléchis pas, lance-toi. Par exemple, comme je te disais, la méthode du le podcast là, que je vais faire le matin ou la vidéo que je vais faire le matin, un matin, je dis, ouais, faut que je le fasse. Je dis, attends, 5, 4, 3, 2, 1, tac. Bonjour, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ça. Donc lancez-vous. Vous voulez ouvrir un blog ?
Lancez-le. Lever le matin, voilà. Pour faire des tâches administratives.
La méthode 5, 4, 3, 2, 1, c'est Miracle Morning. Je crois que c'est Miracle Morning.
Alors il y a un livre entier sur ça. Peut-être qu'il en parle, mais il y a un livre qui s'appelle The 5-Second Rule.
Ouais, il y a 5-Second Rule. Et je vous conseille aussi un autre bouquin qui s'appelle The Miracle Morning. Qui est assez intéressant, que j'ai mis en place en application aussi, pas tout en entier, mais en partie, qui est sympa. Autre point également que je voulais vous dire, ne négligez pas le sommeil. Le sommeil n'est pas votre ennemi. C'est vraiment essentiel. Moi, ça m'a coûté une épaule et 3 mois d'arrêt, puisqu'en fait, si vous jugez que votre sommeil est un ennemi et que en fait, vous grappillez sur votre sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être moins efficace, vous allez faire des fautes d'inattention. Au lieu de vous mettre sur votre boulot, vous allez un petit peu glander et vous dire non, ça me fait chier. Et puis vous allez vous lancer, finalement, il va être super tard et vous allez bosser tard et vous allez crever le lendemain. Donc ne négligez pas le sommeil. Le sommeil est votre ami. Si nécessaire, faites des petites siestes. Faites un micro-sommeil. Moi, ça m'arrive deux fois le soir, comme je disais, jusqu'à 21h30, je discute avec ma femme, etc. Ça m'arrive parfois de faire un petit somme pendant une demi-heure, là, touc. Puis après, je me réveille et puis je suis en forme pour bosser sur mes trucs.
Tout à fait d'accord. Voilà. Moi, depuis que je suis marié, je dors, j'ai ma routine, je dors environ de minuit à 7h. Tous les matins, je me réveille, je suis frais, alors qu'avant, c'était n'importe quoi. Et je travaillais plus d'heures, mais j'accomplissais beaucoup moins, alors qu'aujourd'hui, je travaille un peu moins. Mais je suis beaucoup plus focus.
Faut être focus sur les.
Donc c'est tout à fait d'accord.
Et le dernier point, c'est travailler sur vos prix et votre valeur. Le problème d'un entrepreneur qui se lance, il veut toujours casser les prix au départ. Or en fait, c'est pas casser les prix qu'il faut faire, c'est au contraire apporter de la valeur et justifier de son prix. Je vous donne un exemple. À votre avis, combien vaut une bouteille d'eau? Là, je suis en train de boire un petit verre. Là. Allez-y, réfléchissez. Combien vaut un litre d'eau? Dites-le-moi. Allez. Bon, je vous entends pas, mais dites-le quand même. Donc vous allez sans doute me dire, allez, un litre d'eau ça vaut 10 centimes quand vous achetez à Carrefour ou à Auchan ou à Franprix votre bouteille. Donc c'est d'autres sources, ok, 10 centimes, très bien. Si jamais vous organisez, un petit repas chez vous, vous invitez des amis, etc. Vous allez peut-être prendre une bouteille d'Evian ou plutôt une bouteille d'eau pétillante, moi j'aime bien la San Pellegrino ou la Badois. Donc en fait, vous allez payer votre bouteille, allez 50 centimes, 60 centimes, 1 euro on va dire. Donc là déjà, vous êtes passé d'une bouteille qui valait 10 centimes à une bouteille qui vaut 60 centimes. Imaginons maintenant que bah, vous ayez un repas de Noël ou un repas de premier an que vous faites chez vous, bah, vous allez peut-être prendre une bouteille en verre. Ou, vous savez, les bouteilles des vents en forme de gouttes là, qui sont très jolies, vous en allez mettre 2-3 sur la table, bah, vous allez payer 2€ la bouteille. Vous êtes ensuite sur un quai de gare. C'est-à-dire un quai de gare, vous allez prendre le train ou le métro, n'importe quoi. Vous avez soif, je prendrais bien une petite bouteille, bah, vous allez payer 2,50€ votre bouteille d'eau. Vous êtes passé de 15 centimes à 2,50€. Ensuite, bah, je ne sais pas, vous êtes. Imaginons que vous êtes au restaurant. Vous voulez commander quelque chose à boire. Soit vous prenez la carafe d'eau, soit vous êtes en fait avec votre famille, votre belle famille, votre chérie. Et vous dites non, ma chérie, on prend une bouteille. Ou une demi-bouteille de San Pellegrino ou d'eau, bah, vous allez le payer 10 balles votre bouteille. Ouais. Donc en fait, le prix de la bouteille d'eau est quasiment multiplié par 100 là. Et ouais. Si, imaginons que vous soyez en plein milieu du désert. Et que vous ayez une mouriez de soif, vous allez payer une fortune. Moi, ça m'est arrivé, la plus belle bière, la meilleure bière que j'ai jamais bu de ma vie, c'était tout simplement, à l'époque, j'avais mon premier boulot et tout ça, donc je n'avais pas beaucoup d'argent. Et des fois, j'ai aidé des potes à déménager, et des fois c'était en payant, des fois c'était en gratuit, mais la meilleure bière que j'ai bu, c'était en fait lorsque j'ai aidé des gens à déménager. Et donc, en fait, on a déménagé toute la journée, sauf qu'en fait, l'après-midi, dans le nouveau logement, il n'y avait pas d'eau, et on a déménagé sous un cagnard avec des meubles à trimballer et tout ça. Pas d'eau, et on s'est retrouvé après en disant on y va, j'en peux plus. On s'est retrouvé dans un bar, on a bu la bière, et on a fait et pour cette bière là, j'aurais donné 100€ sans problème. Ouais. Donc en fait, la valeur, c'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que le client est prêt à mettre dessus. Et plus en fait, vous serez prêt à jouer sur les émotions, la valeur que vous êtes apporté, plus vous pourrez faire payer cher les gens. Donc n'essayez pas d'avoir un ancrage de prix. Hein, et essayer plutôt de parler en valeur. L'exemple type que donne Robert Cialdini, c'est en fait un publicitaire qui à chaque fois avait des problèmes à vendre ses prestations parce qu'en fait tout le temps les gens essayaient de négocier les prix, etc. Et une petite astuce qu'il avait trouvée, c'est de travailler sur un prix d'encage qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que au lieu de dire bon bah voilà maintenant le prix c'est de temps, il disait ne vous inquiétez pas, mon produit ne vaut pas 100 000€. Ah oui, heureusement, vous m'avez fait peur un petit peu. Non, il vaut combien alors votre produit? Bah, il vaut que 10 000€. Ah, que 10 000€? Oh, ok, d'accord, ça va. Donc en fait, c'est parler d'abord sur un prix qui est totalement fou, totalement exagéré, pour rendre beaucoup plus acceptable en fait le prix derrière. Voilà, donc le prix, la valeur est essentielle. Travaillez pas sur le low cost. C'est tout ce que font les entrepreneurs qui débutent. Et à chaque fois, en fait, ils se cassent les dents parce qu'ils ne sont pas rentables. Travaillez sur la valeur que vous allez apporter. Qu'est-ce que sont prêts à acheter les gens et qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre le plus d'argent pour eux, qu'est-ce qui a le plus d'importance, qu'est-ce qui résout le plus de problèmes, le plus d'urgence, le plus de besoins, qu'est-ce qui met de l'émotion. Voilà. Ça sera vraiment un truc essentiel à retenir.
Super, merci beaucoup Fred.
Ciao, ciao.
Merci pour tout. Conseilmarketing.com et le livre Le Growth Hacking.